Donc bonjour à vous tous, hein. Donc, je suis Xavier Malbray et donc je vais faire une intervention où je vais présenter, en essayant d'être le plus concret possible, mon travail d'écriture en littérature informatique, en reprenant peut-être au début, enfin comment les choses se sont passées, donc au début de la popularisation du web, il y avait cette promesse des technologies numériques selon laquelle toute personne pouvait écrire, éditer, publier des choses, être lue par quiconque dans le monde. Donc c'était une promesse très très forte, surtout pour ceux qui n'avaient pas accès à l'édition. Qui écrivait, et donc tout d'un coup ces technologies qui vous promettaient de pouvoir faire un certain nombre de choses. Voilà. Donc en quelque sorte, je suis peut-être l'illustration que cette promesse peut aussi se réaliser, puisque je n'avais pas eu accès à l'édition sinon sous forme très anecdotique. Donc avant de publier, la première chose que j'ai publiée qui s'appelle Écrire en quatre dimensions. Donc écrire en quatre dimensions, c'était une façon pour moi à la fois de m'emparer de cette promesse et puis de répondre à un certain nombre de questions qui étaient posées par l'histoire de la littérature. Donc j'ai pris ça de façon très 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 personnelle, avec les moyens qui étaient les miens, donc un individu isolé qui était absolument pas ni dans le milieu d'édition ni dans le milieu de l'université. Voilà, j'étais quelqu'un de tout à fait isolé et qui avait simplement envie de prendre part à cette promesse de l'internet, qui était que on pouvait s'inscrire dans un débat littéraire sans souci d'édition, sans réel moyen. Donc j'ai fait ça à la fois en tant qu'auteur, en tant qu'éditeur, puisque j'ai retenu un nom de domaine, donc 0m1.com, qui existe toujours, dont je me sers toujours. Donc à la fois en tant qu'auteur, technicien, donc écrivain, technicien, éditeur, webmaster, voilà, donc tout à la fois. Donc la première des choses que j'ai mises en ligne, Écrire en quatre dimensions, voulait donc s'emparer de cette promesse et aussi prendre part à un certain nombre de questions qui étaient dans la littérature, et notamment celles que posait Mallarmé, avec cette espèce de constat que faisait Mallarmé sur le fait que certaines formes littéraires étaient obsolètes, que la métrique n'était plus tellement intéressante. Une fois qu'on a écrit nul ptix aboli biblo d'inanité sonore, où est-ce qu'on peut aller plus loin dans la recherche de la rime parfaite? Donc il y a une certaine façon pour Mallarmé d'avoir épuisé en quelque sorte la métrique traditionnelle. Et la réponse de Mallarmé à ça, c'est prendre position de la page dans la dimension, dans les deux dimensions de la page, donc dans la surface de la page, donc avec un coup de dé que je pense tout le monde connaît ici. Donc ce travail de Mallarmé, comme vous le savez tous, donc a été en quelque sorte continué, repris, amplifié par Apollinaire. Donc Apollinaire, je pense notamment à un poème d'Apollinaire qui s'appelle Case d'Armon, qui va beaucoup plus loin que l'image que l'on peut avoir de façon superficielle. Je suis bien sûr qu'aucun d'entre vous ne l'a. Donc des calligrammes d'Apollinaire, où finalement c'est simplement les mots qui dessinent le contour d'une chose, donc qui est une façon un petit peu, illustrative, simple, au premier degré, de construire un poème dans les deux dimensions de la page. Donc Case d'Armon, par exemple, donc vous pourrez certainement retrouver très facilement, Case d'Armon montre comment, en fait, cette écriture dans les deux dimensions de la page est vraiment une écriture en deux dimensions, c'est-à-dire que la place des mots, le sens de lecture influe considérablement sur le sens du poème, et on trouve sur certaines pages HTML en ligne, on trouve des gens qui ont voulu mettre Case d'Armon en écriture linéaire, ce qui est absolument un non-sens, puisque Case d'Armon écrit en écriture linéaire ne veut plus rien dire. Voilà. Donc j'ai voulu en quelque sorte continuer le continuer le à mon échelle, à mon petit niveau, la réflexion donc de Mallarmé et d'Apollinaire, donc qui prennent possession des deux dimensions de la page, et donc cette prise de position de ma part, donc ça a été les 10 poèmes en 4 dimensions. Donc les deux dimensions de la surface, la troisième dimension de la profondeur, hein, du volume. Donc cette troisième dimension qui est évidemment fictive, puisqu'on a toujours qu'un écran en deux dimensions, mais cette troisième dimension, c'est évidemment le lien hypertexte, hein, qui permet de plonger à l'intérieur de la page et d'aller dans une profondeur qui peut être soit celle d'un sens caché du poème qui va être révélé par l'utilisation du lien hypertexte, soit aller vers un autre URL qui donnera un autre sens à la page. Donc la troisième dimension, et la quatrième dimension, évidemment, celle du temps, hein, qui devient non plus une thématique de l'œuvre littéraire, non plus le temps en tant qu'expérience de lecture. Bon, quand on pense à la lecture de La recherche du temps perdu, bon, je défie quiconque de lire La recherche du temps perdu en moins de 15 jours. Donc, il y a vraiment une expérience du temps dans la dimension du vécu, dans la lecture de certaines œuvres. Donc, non plus le temps comme thématique, non plus le temps comme expérience de lecture, mais le temps comme composante à part entière de l'œuvre littéraire, donc qui évidemment va amener l'œuvre littéraire qui est écrite sous ces formes-là, donc sous les formes de l'écriture HTML, vers quelque chose qui a à voir avec le cinéma, évidemment, art du temps, hein. Donc ce premier écran des 10 poèmes en 4 dimensions, voilà, donne donc donne une illustration très 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 simple de ce que donc j'étais en train de vous dire. Donc les 10 poèmes en 4 dimensions, donc qui reprenaient le chemin tracé par Mallarmé et Apollinaire, et qui également reprenait l'interrogation, enfin l'interrogation de Platon, donc dans son dialogue Le Cratyle, donc à savoir est-ce que les mots sont l'expression de la chose ou est-ce qu'ils sont donnés aux choses de façon tout à fait arbitraire. Et donc l'intention des 10 poèmes en 4 dimensions, c'était aussi de répondre à cette interrogation de Platon et de voir si les mots mise en scène avec des outils de création HTML, avec l'utilisation de l'image, avec l'utilisation de l'interactivité, pouvait en quelque sorte réaliser le rêve de Cratyle, qui dans le discours éponyme est celui qui défend la position selon laquelle les mots sont réellement l'expression de la chose. Voilà. Donc le premier des 10 poèmes en 4 dimensions, quand les mots ne faisaient qu'un avec les choses, donc qui évidemment énonce très clairement l'intention de cet ensemble de 10 écrans HTML. Alors toujours pour comment dire parler au niveau le plus simple et le plus concret. Donc la création d'une page HTML, donc qui est en ligne, qui a été mise en ligne, je pense, en décembre 99, donc ça fait déjà un petit moment. Donc cette œuvre qui est toujours en ligne nécessite, donc là ça peut intéresser évidemment les pédagogues que vous êtes, nécessite pour la créer des choses très simples, c'est-à-dire un logiciel de création de site qui s'appelle Dreamweaver, donc la version 3 qui est en accès libre et gratuit, hein, plus un logiciel de traitement de l'image, et là c'est un logiciel très simple, c'est pas Photoshop, c'est PaintShop, voilà, plus un petit logiciel d'animation. Donc avec trois logiciels qui sont vraiment très basiques, plus donc une l'allocation d'un espace web, on peut faire quelque chose comme ça. Voilà, donc ça c'est pour vraiment me mettre au plus près de, comment dire, de l'artisan que j'étais pour créer cette page. Donc la dimension donc de la troisième dimension, la dimension de la profondeur, donc le lien qui s'ouvre ici sur ces mots donc écrits en rouge, quand les mots ne faisaient qu'un avec les choses, et donc des liens également qui se trouvent, on les cherche, donc ça c'est le côté ludique, hein, de ce type de littérature qui évidemment parle beaucoup à des enfants, et c'est, bon, entre parenthèses, quelque chose qui je trouve manque beaucoup dans la littérature française, en tout cas la littérature française d'éditeurs, celle qui est faite par les éditeurs, donc cette dimension du jeu, bon, que nous évidemment a exploré, mais qui est très très peu explorée dans la littérature littérature française. Et donc là, avec ces outils, on peut évidemment explorer cette dimension du jeu qui est tout simplement la recherche, hein, la recherche d'un lien, la recherche d'un sens caché. Bon, Aristote rappelle que le meilleur élément dramatique, c'est la découverte du caché. Donc Œdipe qui découvre que celui qui vient de tuer est son père, et celui avec qui il vient de faire l'amour est sa mère. Donc le sens du caché que l'on peut très facilement mettre en scène avec ces outils de création. Donc on découvre que sur la scène centrale, il n'y a pas de lien, tandis que sur les mots qui sont en bas, que l'on arrive à lire donc nage et nuage, il y a des liens, hein. Donc il y a des liens, et entre les deux il n'y a pas de lien. Donc il y a également une infobulle. Donc nage, quand on nageait dans le nuage, et sur nuage, quand le nuage était en nage. Donc on va cliquer sur un lien puisqu'on nous y invite. Donc quand les mots ne faisaient qu'un avec les choses, quand il n'y avait ni contenu ni contenant. Et donc également il y a un lien infobulle, ni signifié, et donc vous en doutez bien, ni signifiant. Voilà. Donc c'est évidemment de façon très très claire l'expression de, comment dire, du programme de ces 10 poèmes en 4 dimensions. Donc on a exploré la page et on se rend compte que là maintenant on a de nouveau un lien sur la scène centrale qui auparavant n'en avait pas. Donc on a fait disparaître ces formes et maintenant on trouve un lien avec une infobulle de nouveau quand il n'y avait que des corps amoureux tête bêche. Voilà. Donc si on clique ici, on peut cliquer, ça ne donnera pas de résultat, mais si on double-clique ici, en principe, on peut remettre les nuages. Bon, là on dirait que ça ne marche pas, c'est les versions différentes de navigateur. Voilà, et donc ensuite, on explore les 10 poèmes en 4 dimensions qui tous vont, explorer, continuer, approfondir cette interrogation d'origine qui est donc contenue dans le Crati. Là, voilà. Donc ça, je vous laisse éventuellement donc découvrir la suite. Je pense que ce sera dans ce que je laisserai à l'ENS. Voilà. Donc ce premier travail qui, comme je vous le disais, était quelque chose de très simple. Bon, je n'avais absolument pas une formation de scientifique. J'avais fait de vagues études de lettres dans les années 70, donc j'étais très loin de m'intéresser à l'informatique. Et donc simplement en bidouillant, voilà, je suis arrivé à faire ça. Donc c'est d'une grande simplicité. Ça l'est encore plus maintenant, hein. Voilà. Donc après les 10 poèmes en 4 dimensions, une fois que ces deux prises de position ont été faites sur donc la continuité de la filiation Mallarmé-Apollinaire et la réponse en quelque sorte à la question de Platon dans le Cratyle, donc une fois que ces deux questions avaient été abordées, on peut dire que presque l'aventure commençait. Une fois que ces deux questions on ne peut plus importante dans l'histoire de la poésie avait été abordée, non pas résolue, mais abordée. En quelque sorte, l'aventure de l'écriture en elle-même, de l'écriture, en liberté, pouvait commencer. Donc, ça prendra place dans ce qui s'appelle forme libre, donc qui dit bien, là, une fois de plus, le programme, donc une liberté, hein, une liberté totale de création. Donc là encore, la promesse du web et des technologies à la portée de tous, hein. Forme libre, donc qui compteront une quarantaine d'occurrences. Donc simplement celle-ci, on voit bien évidemment qu'il y a par la couleur des caractères, par leur taille, des phrases qui se dessinent. Donc l'araignée du doute s'agitait dans la toile. Chercher la voix sur l'écran, interroger la peau, fouiller la chair, questionner l'inconnu, arracher les solutions, et ce ne sera pas assez. Le doute a plus de pattes que toutes les araignées de la terre. Donc ce doute qui est exprimé dans l'épine dorsale de cet écran HTML, on se rend compte qu'il est peut-être aussi exprimé dans l'animation centrale. qui, vous le voyez, donc consiste en la superposition de deux animations autour du oui-non. Une en jaune à trait épais qui va assez lentement et une à trait rouge qui va très vite, qu'on a à peine le temps de voir. Hein. Et donc, oui, non, c'est l'alternative. Et la superposition de deux alternatives, évidemment, nous amène vers le doute. Hein. Et donc, ce graphisme, cette animation donc centrale en gris, renvoie de façon assez illustrative, assez simple, vers l'araignée du doute qui est exprimée dans l'épine dorsale de la page HTML. Et donc là encore, un lien qui déclenche une action, donc « dis-moi oui ». Et donc si on s'écarte de l'araignée centrale, on a la réponse, hein, donc qui est forcément un non, parce que un texte qui n'aurait pas le sens de la contradiction serait moyennement intéressant pour moi. Voilà, donc cette série de formes libres, hein, cette série de formes libres qui vont exprimer à chaque fois quelque chose de différent, hein, donc là une fois de plus le programme, donc de ces formes libres, donc formes libres flottant sur les ondes, donc on lit sur celle-ci il n'y aurait pas de début, donc au centre de cette image, hein, c'est simplement une animation en GIF animé qui prend toute la surface de l'écran, hein, et donc on lit il n'y aurait pas de début, mais donc on se doute bien qu'il y aura autre chose. Il n'y aurait qu'un milieu, une moitié de rien, s'il n'y avait pas de fin, et qui pourrait sortir d'une prison de mots, d'une prison sans mots, des débuts et des fins, voilà. Et donc on a également un certain nombre d'animations qui composent cette page avec des disparitions, apparitions, etc. Voilà, donc encore un autre écran de ces formes libres, donc là aussi composé de façon très simple, hein, simple, donc avec ça, c'est donc Poisson des Profondeurs, c'est simplement donc le logiciel de création de site, hein, donc Dreamweaver, qui permet de faire varier, comme tous les éditeurs de texte, donc de faire varier la taille des caractères, hein, et donc en centrale, une image, donc créé avec un logiciel très simple PowerPoint et un certain nombre d'animations. Donc Poisson des Profondeurs, quand on l'a perdu, on le regrette, et quand on l'a, on n'en veut plus, et quand on le veut de nouveau, on ne le trouve pas, donc on se doute qu'il y a quelque chose qui manque, hein, et donc on va peut-être le trouver... Hein. Oui, voilà, donc en fait j'étais sur la page HTML, j'étais sur la page PowerPoint, pardon, donc Poisson des Profondeurs ne sonde pas, balade son leurre au bout de son antenne, et donc on va trouver, voilà, la suite du texte, attire à lui plus petit poisson, et quand on le retrouve, on n'en voudrait pas d'autre, et quand on l'éprouve, on s'en lasse. C'est une sorte de charade, donc à chacun d'en découvrir le sens. Voilà, donc une variation autour de ces poissons des profondeurs qui baladent un leurre pour attraper des petits poissons au fond de l'eau où il y a très peu de lumière, hein. Donc ça, c'est mon intérêt pour toutes sortes d'animaux bizarres. Voilà. Encore un écran des formes libres que j'avais retiré des pages principales, hein, des formes libres que j'ai mis dans un grenier parce qu'il m'intéressait moins. Et puis en préparant cette intervention, j'ai regardé aussi ce qu'il y avait dans ce grenier. Bon, ce type de création m'a amusé de nouveau parce que voilà, là encore c'est quelque chose d'extrêmement simple, et là ce sont même pas des images donc créées avec PaintShop, ce sont simplement des cadres dessinés avec le logiciel de création de site web et qui sont ensuite remplis de couleurs, donc c'est extrêmement simple, il n'y a même pas d'image là-dedans, hein. Ce sont simplement des cadres qui sont colorisés, donc là avec une fois de plus cette dimension de l'humour et du jeu, hein, qui est vraiment quelque chose qui est permise, puisque chacun est son propre éditeur, donc comme je suis quelqu'un qui aime bien l'humour et le jeu, donc l'harmonie des sphères solitaires ne cessera-t-elle donc jamais, donc voilà, à vous de découvrir la dimension humoristique de cette formulation, hein. Voilà, ou celle-ci également, voilà, que j'ai redécouvert en préparant cette intervention. Donc, on voit une phrase qui est barrée par des formes, et voilà, on se demande ce qu'il peut bien y avoir derrière ça. Et donc, voilà, le jeu, c'est de découvrir ce qu'il peut y avoir ce qu'il peut y avoir derrière. Voilà, donc la vérité d'un noir d'encre se cache en dessous, voilà, et donc on clique pour faire disparaître des formes, et finalement on va trouver un autre texte, voilà, donc c'est une fois de plus la dimension du cachet découvert, hein, donc qui, évidemment, pour des enfants, pour des collégiens, des lycéens, même, est une source de jeu infini, donc la vérité mise à jour par l'internaute ne sera-t-elle pas décevante, voilà, donc c'est ce que l'on découvre après avoir manipulé la page, après avoir fait disparaître un certain nombre de caches, et qui évidemment vous met en face de votre propre curiosité, de la déception de l'objet de votre découverte, hein. Voilà. Donc encore bon, un autre écran qui là encore va creuser la dimension d'un certain déséquilibre créatif d'humour. Donc je me concentre autour de l'idée de me concentrer, cet effort hypnotique finit par me disperser. Je ne sais plus pourquoi je veux me concentrer de telle façon que l'effet obtenu est à l'inverse de celui attendu. Je me concentre, etc., etc. Et avec ces deux mots donc qui sont simplement des animations une fois de plus, hein, donc concentration, déperdition hypnotique, voilà. Donc il y a toute une série d'écrans comme ça qui font partie des formes libres, qui sont autour de l'idée de la contemplation hypnotique d'un écran, hein, qui est pour ceux qui travaillent longtemps sur un ordinateur, qui fait partie du travail devant un écran. Donc cette concentration hypnotique devant un écran qui peut faire mal, et donc c'est la dimension physique de douleur de travail devant un écran, hein, qui est également dite à travers cette page HTML, cette dimension qu'il ne faut pas ignorer, qui est une dimension qui fait partie du travail d'écriture de l'écrivain traditionnel. Bon, les écrivains à la main se plaignaient de leur crampe, ou se plaignent toujours de leur crampe au poignet, hein, de leur difficulté à tenir un crayon. Et quelqu'un qui travaille devant un ordinateur, bon, moi je tape facilement avec mes doigts, donc j'ai pas ce problème de douleur, mais bon, il y a toujours ce problème de fatigue oculaire, voilà, qui fait vraiment partie du jeu, hein. Donc c'est une douleur qu'il faut accepter pour pouvoir aller au-delà de sa résistance physique, en quelque sorte. Voilà, donc quelques exemples de travail simple, donc en commençant par les 10 poèmes en 4 dimensions et le livre des morts. Donc comme Martine Marzloff a souhaité que je parle aussi donc de ça, donc le livre des morts, donc je vais en parler très vite parce que sinon ça peut prendre longtemps, hein. Donc le livre des morts, c'est donc une œuvre que j'ai réalisée avec Gérard Dalmont, qui a donc œuvré à la mise en scène. Donc ça, c'est un projet qui est né typiquement sur le web, d'échange avec des gens distants, donc Gérard Dalmont vivant à New York, donc sur une liste qui s'appelle la liste écriture, qui existe toujours. Donc c'est un projet qui est typiquement web, hein, qui est né sur les groupes de discussion, hein, sur le groupe de discussion écriture, qui est né d'échanges et qui ensuite s'est construit à distance, hein. Donc moi faisant donc le concept et l'écriture des textes, et Gérard faisant la mise en scène des textes. Alors mise en scène, c'est pas un mot qui est utilisé de façon légère, hein. Donc la mise en scène, c'est vraiment réfléchir sur la création d'un lien hypertexte. Donc c'est pour Gérard Dalmont, qui était à la mise en scène, c'est se dire, bon, ici nous avons un passage, donc dans ce livre des morts, hein, nous avons un passage qui demande attention, qui demande de concentration, qui demande un retour sur soi de la part du lecteur. On ne va pas mettre un lien qui va s'ouvrir tout de suite, sinon il y aurait cette possibilité pour le lecteur qui parcourt ce livre des morts, il y aurait cette possibilité de cliquer sur un lien de façon compulsive et de se comporter comme on peut se comporter sur un jeu vidéo, par exemple, hein. Et donc il faut en quelque sorte interdire ce type de lecture, puisqu'on veut inviter le lecteur à une certaine concentration relation à un retour sur soi. Voilà, donc le travail de Gérard, ça a été donc outre un travail de création de site, outre un travail de création d'images, ça a été aussi un travail de réflexion sur la valeur d'un lien. Voilà, donc est-ce qu'un lien est quelque chose d'anodin ? Bien évidemment que non, hein. Et il y a des liens, alors sur des œuvres, bon là je dépasserai un petit peu le cadre de mon intervention, mais sur une dimension qui est très présente actuellement dans la narration interactive, qui est le documentaire interactif, et donc il y a certaines œuvres, donc de certains documentaires interactifs qui, ne réfléchissent absolument pas à la valeur éthique d'un lien et qui se servent des possibilités de la création web et qui sont immenses, mais qui s'en servent sans réflexion sur la valeur d'un lien. Est-ce qu'on peut vraiment présenter, par exemple, l'enfermement d'une personne et la possibilité de parler à cette personne? Donc là, je pense au documentaire Prison Valley. Est-ce qu'on peut vraiment se servir d'un lien comme si on allait conduire un client vers l'achat d'une cuisine, hein? Donc voilà, ce sont des réflexions qui étaient de cet ordre-là que Gérard Dalmont a eu pour la création du Livre des Morts. Donc le Livre des Morts qui est toujours en ligne, hein, sur l'URL www.livredesmorts, livre au pluriel, livredesmorts.com, hein, donc qui existe toujours, bon, qui est amputé d'une partie de lui-même, mais qui existe toujours. Et donc très brièvement, le Livre des Morts, c'était une tentative. Enfin, ça a été plus qu'une tentative, hein, ça a été réalisé. On peut dire que ça a été une réussite, puisque c'est souvent cité, étudié, etc. Donc le Livre des Morts était une volonté de ma part de créer un Livre des Morts qui ne soit plus seulement un livre à lire qui serve de médiation pour aller vers la destinée que l'on souhaite à son âme après sa mort, donc non plus un livre à lire comme dans la tradition du Livre des Morts égyptien ou la tradition du livre tibétain, soit un livre à lire soi-même, soit un livre à lire, à faire lire par un médiateur. Donc non plus un livre à lire, non plus un livre à écrire, mais un livre à la fois à lire et à écrire. Voilà. Donc là, je vous laisse découvrir. Plus avant, vous trouverez facilement à la fois l'œuvre en ligne et des gloses très facilement sur le Livre des Morts. Donc très rapidement, chaque chapitre était organisé de la même façon, une séquence initiale, donc avec un énoncé de prénoms, hein, donc des prénoms issus de plusieurs langues et plusieurs civilisations, une séquence animation, donc voilà celle qui était sur le premier chapitre. Là, on va pas aller la voir parce que c'est un peu long, parce que c'est une œuvre qui est assez lourde, donc c'est assez long, mais bon, en ligne vous le trouverez sans problème. Et donc ensuite un texte terminal qui, au cours des 7 chapitres de ce Livre des Morts, se continue. En fait, donc c'est un texte qui commence à la séquence 1, qui finit à la séquence 7, et que l'on va lire par épisode, donc à la fin de chaque séquence. Voilà, donc le premier, donc c'est évidemment la découverte de la nouvelle condition de cette personne. Donc, et si moi suis bien là, les autres où sont-ils cachés, ou bien enterré, ou bien aspiré par le ciel, ou frappé par le tonnerre, ne m'ont pas prévenu, se sont écartés tout d'un coup, m'ont quitté, fui, m'ont échappé, se sont couverts d'une chape, se sont ouverts dans le branchage. Alors, si seul je devrais faire ce chemin, pourquoi m'étonner? Je le savais, le monde était une illusion, il n'y avait que... Et voilà la suite au prochain épisode. Donc cette œuvre, voilà, donc le Livre des Morts, qui était donc assez, assez lourde en quelque sorte, hein, lourde à mettre en place, lourde à porter, etc. Donc a été suivi d'un certain nombre d'autres œuvres en ligne. Et donc là, je vais parler aussi de celle-ci, hein, donc qui est très moyennement interactive, qui est très moyennement dynamique, comme vous avez pu le voir, que les 10 poèmes en 4 dimensions l'été, ou les formes libres. Donc là, le travail de l'amour, c'est le travail autour de la matérialité d'une feuille de papier. Et la feuille de papier en question, c'était une feuille de format A4 sur lequel que l'on m'avait distribué au cours d'un séminaire. Donc un séminaire comme vous en connaissez tous, et donc parmi les intervenants de ces séminaires, il y avait une étudiante chinoise qui avait entrepris de relire les traductions par Paul Claudel de poèmes classiques chinois. Et elle s'était rendue compte, donc évidemment comme le chinois est sa langue natale, elle s'était rendue compte que les poèmes traduits par Paul Claudel étaient très mal traduits. Et donc en fait elle nous donnait sa propre traduction, que je pense être beaucoup plus fidèle au texte original. Donc elle nous donnait sa propre traduction des poèmes classiques chinois que Paul Claudel, semble-t-il, a quelque peu écorché. Donc cette feuille qu'on m'avait distribuée, sur laquelle il y avait du texte, donc on va voir par exemple tout de suite ici, donc la réécriture de Claudel, donc ici on voit donc cette page, donc l'hébétement de mes yeux fixes, ah, plus lourd encore, désormais mon regard pèsera sur toi, miroir pâle, car en ce moment même s'accomplit le malheur qui va faire irrémédiable la tristesse de mes yeux fixes. Donc ça, c'est la réécriture de Claudel. Et donc, on a ensuite la traduction supposée plus exacte, je n'ai pas vérifié, de cette étudiante chinoise. Donc le titre de ce poème classique, « La lune à l'auberge », auteur inconnu. « La lune monte, il fait noir, dans la chambre et dans le miroir, mais la fenêtre à Paris, une lueur puis une raie, et puis douteux, oblique et sale, l'avenir dans le miroir pâle. » Voilà, dans le miroir sale, pardon. Oblique et pâle, l'avenir dans le miroir sale. Voilà, donc on a sur cette page, donc, en quelque sorte, une plongée dans l'histoire de la littérature. Donc les poèmes classiques chinois, donc, qui nous sont arrivés sur des parchemins. La traduction de Paul Claudel, donc, qui, ambassadeur en Chine, s'empare de ces textes classiques et certainement s'adjoint à la collaboration d'un lettré chinois pour essayer d'en donner une traduction. Puis, début du 21e siècle, cette étudiante chinoise qui s'empare de ces traductions, chose qui n'avait jamais été faite auparavant, ne remettait pas en doute le travail de la statue Paul Claudel, et donc elle se rend compte qu'il y a de grossières erreurs, et donc elle nous donne sa version à elle. Donc ensuite, moi, comme je m'ennuie, comme beaucoup, certainement la plupart d'entre vous, au cours d'un séminaire, je griffonne sur la page. Hein, donc je griffonne tous ces petits machins là, donc ces dessins. Je prends des notes quand même, parce que je suis quelqu'un de sérieux, donc je prends des notes. Et un jour, je retrouve cette feuille au fond de mon cartable. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, tiens, je me souviens, c'était quelques années après. Je me dis, ah oui, effectivement, c'était... oui. Et puis je regarde cette page, je me dis, tiens, je vais la scanner. Et je me rends compte qu'en la scannant, je lis non seulement l'endroit de la page, mais également l'envers. Et que en plus on voit du bruit, hein. Donc ici vous voyez par exemple cette espèce de bruit là, de pixels, hein, qui vient s'ajouter. Et donc tout d'un coup je me suis dit, bon, ce serait peut-être quelque chose d'intéressant de travailler sur cette page qui en quelque sorte est vraiment, enfin, c'est une plongée dans l'histoire de la littérature, dans plusieurs langues, dans des traductions fausses, des retraductions, des interprétations, etc. Et moi j'ai déjà écrit dessus, mais je vais encore continuer à écrire dessus, je vais encore réécrire par-dessus. Je vais donc de façon quelque peu facétieuse, donc biffer le mot miroir pour le remplacer par urinoir. Je vais donc ici biffer encore d'autres mots, donc en mettre un à la place d'un autre. Et je vais en plus écrire avec mon logiciel de création web. Donc tout simplement sur cette page que j'ai scannée, que j'ai transformée en JPEG pour qu'elle puisse être mise en ligne, je vais écrire encore autre chose. Donc l'amour commence par une attente. Pas d'amour sans attente de l'amour. L'amour est lexicographe, grammairien, linguiste. L'amour commence et finit par une atteinte. L'amour est réécriture et brouillon. L'amour est noble, l'amour est prosaïque. L'amour se fait dans le ruisseau. L'amour doit ruisseler. Donc le dernier mot, évidemment, sur le nom de Paul Claudel, œuvre poétique, Paris Gallimard, 1967, page 946. Bon, évidemment, vous comprenez la dimension blasphématoire et coquine derrière ce type de superposition. Voilà. Donc... De l'amour, donc il y a un certain nombre d'écrans, hein, que vous pourrez découvrir très très facilement en ligne, donc qui se donc pour certains se contente de prendre le bruit, les pixels de la page, et de reprendre des mots qui sont soit dans la traduction de Paul Claudel, soit dans ce que l'étudiante chinoise, elle, a retraduit. Et donc certaines autres pages vont réécrire dessus. Donc toujours en se servant de cette espèce de noyau qui est vraiment minimal, hein, une feuille A4 distribuée au cours d'un séminaire pour faire ma pelote dessus, hein, et continuer mon travail d'écriture à partir de plusieurs écritures très très différentes. Très différente. Donc, écriture donc avec le clavier, écriture avec la souris. Donc, quand vous voyez ces écritures qui ont l'air manuscrites, qui sont assez malhabiles, donc ce sont des écritures à la souris. Hein. Donc, évidemment, le texte et les lettres sont assez mal formées, parce qu'avec la souris, ce n'est pas toujours très 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 simple d'écrire. Donc, elle demande la tristesse de mes miroirs. Je lui dis, l'oubli peut tout arranger. Pourtant, j'ai déjà oublié. Il reste l'oubli à oublier. Et donc, voilà, toujours le texte qui était déjà inscrit. Voilà, donc voilà, un certain nombre de pages. Alors certaines même qui ont été coupées en deux lors de l'opération du scan. Voilà, donc toutes les variations possibles, hein, autour de l'utilisation d'une simple page A4, hein, de cette espèce de détritus, hein, à partir duquel... Donc je me suis amusé à faire cette suite donc qui s'appelle de l'amour, voilà, avec des résultats qui parfois sont intéressants d'un point de vue plastique, parfois pas du tout, enfin, etc. Voilà. Donc voilà, ça c'était dans la continuité de ce travail d'écriture donc. Après le livre des morts, et donc la dernière chose, donc voilà, toujours pour rester donc au plus près d'une pratique, hein, dans ce qu'elle a de plus concret, hein. Voilà, la dernière chose que j'ai faite, donc que l'on peut trouver en ligne une fois de plus, donc c'est un travail qui est paru dans la revue Doc la dernière, l'hommage à Joël Hubeau, et donc c'est un travail à partir de fragments de textes sur lesquels j'étais en train de travailler, des textes qui se veulent au plus près de la moelle, hein. Et donc voilà, ce type de travail qui se déroule sur plusieurs mois, parfois commence au clavier, et puis ensuite un jour dans l'ennui d'une salle d'attente, j'ai pas de papier sur moi, mais donc je vais prendre une feuille de soin, les opticiens mutualistes de Pamiers, et donc je commence à écrire autour de ces écrits qui étaient des écrits très très minimalistes, donc au plus près de l'os, donc cette succession de mots, hein, donc c'est gratté trop, s'écorcher, je me gratte l'être, je m'écorche, gratte l'être, écorchelé, gratte l'être, écorchelé, écorchelé, écorche, écoute, les corps, les coups, coupe, les lacs, étale, écorche, écoute, les corps, les coups, ça reste, et ça, et ça, et ça, et ça rate, pour le voir, faut-il une loupe, mais la loupe rate, j'ai mettre la loupe sous la loupe. Il dit, mon moi est fissuré, ma fissure est ancienne, ma fissure est ancienne, ma fissure est finie. Et on arrive à la fin, le résultat, le titre en quelque sorte de cette série de textes, qu'ensuite je vais mettre en superposition à des unes de journaux en ligne qui sont les journaux, on va dire les plus connus, hein. Donc un certain nombre de textes comme ça, très 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 courts, très très minimalistes, très brut, hein. Et donc qui est très très intime également, et ce que j'ai trouvé intéressant, c'était aussi la demande de Doc qui m'y a porté, c'était de les mettre en regard, en superposition à des unes de journaux en ligne les plus répandues possibles, et donc de mettre en rapport cette écriture au plus près de l'intime avec l'écriture qui au contraire est la plus ouverte, la plus destinée au plus grand nombre, la plus simple a priori, hein. Donc la une de El País. Donc, évidemment, certaines ont été choisies avec un petit peu d'envie de jouer. Hein. Donc, voilà. Et donc la suite, donc là c'est un journal que j'aime bien, donc le journal de Cuba, hein, Granma, qui est souvent intéressant pour faire découvrir, par exemple, à des jeunes la dimension de propagande. Alors Granma c'est un vrai régal pour ça. Donc un journal qui est ouvertement un journal de propagande et qui sur sa une, donc c'est la une qui était en ligne donc il y a même pas un an, donc avec toujours Che Guevara qui est en une, hein, donc je suis en train de mourir, je suis en train de m'ouvrir, je suis en train de m'oublier. Donc le Guardian, donc le journal de la gauche anglaise, qu'est-ce que c'était, Mugabe, je crois, oui, un président africain. Donc regarde là, ce mois qui passe, chaque seconde m'arrache. Reste là, moi, reste là, t'en supplie. Voilà, donc c'est évidemment sur la distance la plus extrême possible entre l'écriture poétique et l'écriture du plus grand nombre. Hein. Donc sur Le Monde, c'était au moment de l'affaire Wikileaks, donc Julian Assange. Je, aussitôt dit, aussitôt ri, tu, à l'autre le mutisme, il, ce qui m'échappe. Donc la une de l'Humanité, j'aurais, mais serais-je là, maintenant, le temps comme le vent. Donc toujours au moment de l'affaire Julian Assange, donc la une de Libé, je chevauche le vide, je habite le temps, je se perds dans l'hypertexte. Et la une du New York Times, bien sûr je suis éternel, pas toi? Comme la pierre, comme le corail, comme l'animal, le cœur de l'arbre bat dans ma poitrine. Et donc la une, évidemment, de la Pravda, il fallait la Pravda pour cette série, donc la vérité. Je doute, je suis. Tu doutes, tu fuis. Il doute, il fut. Voilà, donc la fin de cette série, donc qui était destiné à Doc, voilà donc la fin de ce diaporama, voilà donc en fait c'était donc j'ai volontairement donc oublié la théorie, hein, pour aller vraiment vers ce qui est comment dire très concrètement l'écriture d'une écriture poétique, et bon évidemment en n'ignorant pas l'histoire littéraire, hein, mais voilà donc le très concrètement qu'est-ce qu'un poète peut faire dans le domaine de la littérature numérique. Alors une littérature numérique qui n'est toujours pas, et bon ça m'étonne toujours, qui n'est toujours pas enregistrée par exemple Antoine Gallimard qui parle à un moment du livre numérique, ce qui n'est pas du tout la même chose que la littérature numérique, donc qui parle du livre numérique. Et donc il dit qu'il veut parler évidemment des romans qui vont être numérisés et lisibles sur tablette. Et donc il dit une phrase du style c'est sans compter, sans ces expériences dont on ne sait pas encore de quoi il s'agit. Et ça c'était il y a même pas un an. Donc voilà. Donc c'est une littérature de toute façon ça sera débattu, hein, pour dans l'ensemble de ce séminaire, je suppose. Hein. Mais bon, c'est vrai que c'est toujours quelque chose d'étonnant. Donc là, je participe à des réunions avec le Centre Régional des Lettres en Midi-Pyrénées. Donc je vois que c'est toujours pas quelque chose qui est compris, quoi. Donc c'est assez bizarre, voilà.